France Inter, le 18-20.
Le lancement a donc eu lieu lundi, dimanche soir, une première expérimentation de service national universel qui sera généralisé ensuite. Les images, nous les avons tous vues, les idées aussi de fraternité, de cohésion nationale, de mixité qui accompagnent ce service qui n'est pas militaire, mais qui emprunte aux militaires certains de ces mots, compagnie, pactage, appelé, lever des couleurs, marseillaise aussi, vocabulaire aussi un peu esprit colo, comme ceux qui surveillent notamment les dortoirs qui ont le BAFA, vocabulaire scolaire parfois également, emprunté en tout cas à l'éducation, puisque grâce à ce service national universel, on doit savoir mieux détecter l'illettrisme, on en parlera peut-être aussi des très grosses carences numériques, et aujourd'hui, c'est important. L'important au milieu de tout cela reste à évaluer qu'est-ce qu'on va faire après SNU, ça sert à quoi pour les enfants? Qu'est-ce qu'ils auront dans leur pactage justement en rentrant chez eux? En quoi cette expérience de 15 jours les aidera à avancer vers quoi? Nous allons donc parler ensemble d'évaluation, maintenant que c'est parti, d'impact, de dérogation aussi, parce que le mot revient très souvent dans vos questions, le mot qui fâche apparemment. Est-ce que ce SNU a vocation à devenir une sorte de rite de passage d'une classe d'âge? On discute de tout cela ensemble, soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Esse. Le téléphone sonne.
Arnaud, bonsoir, c'est vous le premier, soyez le bienvenu.
Eh bien, bonsoir. Je vous appelle parce qu'en fait, comme je l'ai dit à la standardiste et au standardiste avant, parce qu'ils étaient deux, moi, j'ai pas connu le service militaire parce que j'ai pas voulu le faire. J'étais objecteur de conscience parce que je voulais absolument pas porter des armes et être habillé en kaki. C'était les années 90. Mais depuis, j'ai un peu changé parce que je m'aperçois qu'on a perdu quelques valeurs républicaines. Et cette formule qui me semble être sans porter d'armes et apprendre les valeurs républicaines me semblait pas forcément mauvaise.
Vous les aviez, les valeurs, Arnaud, c'est pour ça que vous aviez pas besoin de faire le service,
fait. Oui, j'avais pas besoin parce que, en fait, nous, la mixité, on l'avait déjà. Enfin, moi, je suis issu d'une banlieue où on se tolérait les uns les autres, et c'était facile. Et je côtoyais, j'ai été universitaire, et j'ai des copains qui sont pas universitaires, et ça nous a pas empêchés. Mais maintenant, comme c'est très cloisonné, et le service militaire, en discutant avec d'autres amis qui l'ont fait, leur a permis de comprendre ce qu'était la mixité sociale, ethnique, dans notre pays, et ce qu'était la République française. Et je pense que peut-être c'est bien. Alors, peut-être que je me trompe complètement. Moi, je suis pas du tout ni syndiqué, ni politique. Je n'appartiens à aucun groupe politique. Donc, je ne défends rien. Mais je me dis, si ça nous permet de retrouver des vraies valeurs dans ces temps très troubles, où les religieux reprennent le pouvoir sur le mariage pour tous, sur sur les musulmans qui ont du mal à s'intégrer pour certains, d'autres très bien. Peut-être que si on était un peu tous brassés ensemble, on se comprendrait mieux.
Eh ben, merci beaucoup pour ce premier témoignage, Arnaud. Moi, j'ai un peu l'impression que c'était aussi le but du jeu dans le service militaire à un moment, surtout dans les années 90. Puis comme Arnaud, il y a beaucoup de gens qui essayaient de passer par-dessus, en fait, et qui ne voulaient pas faire ce service. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler avec nos autres auditeurs pour discuter ensemble, en tout cas, et dialoguer jusqu'à 20h. Gabriel Attal est là. Bonsoir, monsieur Attal.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de la Jeunesse. Et si je commence par vous, c'est parce que c'est vous qui pilotez ce fameux projet du service national universel. Et bonsoir, Marie Trélucane.
Bonsoir.
Vous êtes présidente cofondatrice d'Unicité, une association de promotion du service civique. Pour ce qui nous concerne, moi, je trouve ça intéressant, Gabriel Attal, la comparaison que font les gens, en fait, immédiatement, avec ce qu'était autrefois le service. Est-ce que, au fond, c'est volontaire de donner à ce service national universel un aspect de service militaire sans les armes, en fait? Est-ce que l'image que vous avez voulu donner, les uniformes, la Marseillaise, etc., c'est aussi pour rappeler ça, en fait, ce dont parlait Arnaud?
Non, je pense que ce qui est certain sur les objectifs, c'est que il y a une image qui est peut-être un peu exagérée, peut-être parfois un peu fantasmée, du service militaire comme ayant été un creuset républicain, un vrai lieu de brassage qui finalement permettait à la société d'être plus rassemblée et plus cohérente. Pour moi, c'est quand même oublier un certain nombre de choses. D'abord, qu'il n'y avait que les hommes et pas les femmes, ce qui quand même écarte une partie non négligeable de la société. Ensuite, parce que c'est vrai qu'à la fin, il y avait quasiment plus de jeunes garçons qui y échappaient, entre guillemets.
Personne
que de
y aller,
garçons
c'était
qui
un monde perdu.
À la dernière année, on était à 200 000 jeunes qui étaient appelés sur environ 400 000. Donc voilà, il y avait une minorité qui y participait. Donc je pense que Jacques Chirac, quand il a suspendu le service militaire, il a pris une bonne décision. Ça ne fonctionnait plus, en tout cas dans la forme que ça avait. On a professionnalisé l'armée. On n'avait plus besoin d'avoir des générations entières de jeunes sachant manier les armes. Moi, ma conviction, et celle d'Emmanuel Macron, c'est que l'erreur a été de ne pas le remplacer par un dispositif obligatoire pour tous. Il y a eu de très belles avancées. Le service civique en est une. Mais de ne pas avoir ce moment de brassage, de creuset républicain, où des jeunes font une expérience de mobilité, de mixité, de rencontre.
Le sens de ma question, Sylvain Tell, c'est tout. Alors, on peut dire pourquoi pas, hein, il n'y a aucun jugement, mais c'est... pardon, je vous ai appelé Sylvain, Gabriel Attal.
Oui, c'est un journaliste qui est un homme.
Absolument. On salue, parce que je le connais. Bon. C'est l'imagerie qu'on a voulu donner, en fait. Est-ce que c'est volontaire d'avoir voulu donner cette image-là, ou encore une fois, on est dans quelque chose de militaire sans le militaire, en fait? Est-ce que vous avez voulu qu'il y ait aussi ce côté un peu raide, quoi?
Non, mais c'est une très bonne question. Ce qui est volontaire, c'est de mettre en avant les symboles de la République. Effectivement, le drapeau tricolore, les couleurs tricolores, la Marseillaise, c'est des symboles de la République. Mais moi, je trouve qu'il y a souvent une confusion entre patriotisme et militarisme. On peut aimer son drapeau, être fier de son drapeau, aimer chanter la Marseillaise, sans être forcément un militaire. D'ailleurs, on a en ce moment une belle Coupe du Monde féminine, et on voit bien que quand il y a des matchs, tout le monde chante la Marseillaise et est fier de porter les couleurs tricolores. Donc, qui est les valeurs et de la République et les symboles de la République en avant? Oui, c'est volontaire. Parce que oui, c'est pas un gros mot de dire que on peut fédérer autour de ces symboles, autour de ces valeurs en France, et on doit le faire. Maintenant, ce sur quoi je vais insister, c'est que le service national universel, c'est beaucoup d'autres choses. C'est la découverte d'enjeux sur le développement durable, de l'engagement. Et tout ça, c'est très présent aussi dans le séjour de cohésion qui est en cours. Après, les médias sont beaucoup plus intéressés, je le constate, par ces images-là. Et je le comprends, parce que voilà, c'est aussi très imagé. Mais il y a aussi tous ces enjeux-là et des modules sur l'engagement, sur des actions citoyennes, sur le développement durable qui sont très forts.
Marie Trilouken, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que c'est quelque chose qui va de pair, enfin, avec le service civique? En gros, que ces gamins-là, en sortant, parce qu'il est censé y avoir une phase 2, peuvent aller plus volontiers vers vous, justement, vers un vrai service civique. Donc, est-ce qu'avec un peu de chance, ce sera l'anti chambre de ce que vous êtes, vous? Est-ce que c'est ce que vous souhaiteriez?
Oui, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce pourquoi on regarde avec attention, voire on participe sur certains territoires pour saisir ce nouveau dispositif comme une occasion de parler des dispositifs d'engagement, et en particulier de celui qui marche le mieux quand même, puisqu'il mobilise aujourd'hui 140 000 jeunes, qui est le service civique.
Et j'allais vous demander, parce que vous n'avez pas besoin, en fait, au fond, d'une publicité supplémentaire ou pas? Ou si, en fait?
Bien sûr. En fait, aujourd'hui, moi, je vais résumer la situation avec ma lumière.
Allez-y.
Aujourd'hui, le service national, dans le code du service national, c'est une journée, la journée défense citoyenneté, et derrière, le service civique qui n'est que volontaire et qui touche effectivement 140 000 jeunes sur les 8 millions de 10-25 ans, donc on a encore la marge.
Ouais.
Effectivement, de notoriété publique, on disait qu'une journée, ça suffisait pas pour faire passer tous les messages qu'on voulait. Donc je le présente un peu d'une autre manière, mais moi je vois ça comme... on améliore, bon, peut-être qu'un mois, c'est une période pilote aussi de test, on va voir.
Bien sûr.
Peut-être un mois, c'est trop, je ne sais pas, mais en tout état de cause, c'est une étape.
C'est deux fois 15
jours.
Parce qu'il y a une mission d'intérêt général.
C'est ça.
Pour des tests, pour le bruit de secourisme, pour un certain nombre de choses, pour informer sur comment continuer à s'engager dans la vie, pour informer sur le service civique. En tout cas, ça, ce sera la contribution d'Unicité, de jeunes qui viennent, qui interviennent, qui expliquent ce qu'ils font, eux, pendant 8 mois. Effectivement, mon espoir, c'est que le gouvernement s'attache à continuer à investir et des ressources humaines et de l'argent, du budget, dans le développement du service civique, comme, on va dire, en concomitance avec l'émergence de ce nouveau dispositif-là. Sinon, c'est vrai que ça manquerait de cohérence.
On va parler d'argent aussi, évidemment, un moment, Gabriel Attal. Il y a cette question de Sébastien de Paris 14e qui dit: comment seront formés et choisis les animateurs d'ateliers, notamment parce qu'on parlait de biodiversité, on parlait de toutes ces choses-là. C'est intéressant de former des jeunes, par exemple, là dit-il, à l'égalité homme-femme, mais il ne faut pas que ce soit fait évidemment n'importe comment et par n'importe qui. Comment, qui sont ces gens qui viendront parler aux gamins pendant 15 jours?
Absolument, c'est une très bonne question. C'est des associations. On a signé des partenariats avec une quinzaine d'associations. Il y a des grands réseaux, notamment d'éducation populaire, Ligue de l'enseignement, Fédération Léo Lagrange et d'autres, qui interviennent notamment sur la question de la lutte contre les discriminations. Donc c'est des associatifs de l'éducation populaire qui connaissent ces enjeux-là, qui savent les aborder avec les jeunes, qui interviennent sur les questions de défense. évidemment, c'est plutôt des militaires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on s'appuie sur des associations locales dans les territoires où se déroule le service national. C'est aussi une autre différence avec le service militaire, c'est que c'est très ouvert sur le territoire où ça a lieu. Les jeunes ne sont pas enfermés entre quatre murs. Il y a des actions, il y a des rencontres qui ont lieu sur tout un territoire. J'ai un exemple. Vendredi, je serai dans le Morbihan avec des jeunes du service national universel. Il va y avoir tout un module autour des questions de préservation de la biodiversité marine. Ça sera fait avec la SNSM, avec une association de développement durable local. Donc voilà, on s'appuie sur ces ressources-là.
Une question de Félix, est-ce qu'il y aura sur franceinter.fr, est-ce qu'il y aura un suivi particulier si on détecte des jeunes souffrant d'illettrisme? Parce que ce sont des choses qu'on détecte déjà pendant les fameuses journées de défense. En quoi, là, on aide plus les jeunes avec un vrai suivi derrière? En quoi c'est mieux pour un gamin qui est déjà presque en décrochage, en fait, d'atterrir chez vous, entre guillemets?
Effectivement, la détection de l'illettrisme, elle existe aujourd'hui dans la fameuse JDC. Ouais. On reprend cette mission-là. On revoit un peu la manière dont c'est détecté. Il y a aussi des outils qui ont besoin d'être modernisés. On étend aussi à l'électronisme, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, les jeunes ne sont pas de manière totale et absolue, totalement au fait avec le numérique et sachant parfaitement maîtriser le numérique. Donc on étend à l'électronisme. Et aussi ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment travailler sur un parcours de remédiation ensuite. Finalement, aujourd'hui, ce qui ne fonctionne pas vraiment, c'est que l'illettrisme est détecté dans le cadre de la JDC, principalement pour des raisons statistiques, mais derrière, il n'y a pas vraiment de pont qui est fait pour garantir que des jeunes suivent un parcours de remédiation. Et donc là, ça sera fait à partir du service national universel, c'est-à-dire qu'on va proposer de vrais parcours de remédiation sur l'illettrisme et l'électronisme aux jeunes, une fois qu'ils seront rentrés chez eux, il y aura un suivi par les acteurs au niveau local.
Est-ce qu'on détecte forcément les décrocheurs? Ce sont des gamins qui ont 16 ans, donc ils sont toujours à l'école.
Ils sont
en seconde théoriquement. Grosso modo. Ouais.
Donc ils ne sont plus dans l'obligation scolaire.
Exactement. Donc j'allais dire, comment est-ce qu'on va chercher, qu'on peut détecter ceux qui ont déjà quitté le système scolaire en fait.
D'abord, comme ils auront quitté le collège, par définition, on saura s'ils sont scolarisés ou pas. Et c'est un point très important. L'objectif, c'est vraiment d'élargir le champ des possibles de jeunes décrocheurs ou qui sont sur la voie de décrocher pour leur montrer qu'il y a plein de possibilités. Il y a un grand drame en France, c'est que vous avez beaucoup de jeunes qui naissent et qui grandissent dans un territoire et qui ne quittent jamais ce territoire. Parce qu'il y a des colonies de vacances qui ont perdu un peu en puissance, on y travaille, parce qu'il y a moins de mobilité, parce qu'il y a des enjeux sociaux et financiers aussi. Mais du coup, vous avez des jeunes qui se retrouvent à faire tout leur choix, ou plutôt leur non-choix d'orientation, de formation, d'emploi, avec le seul horizon du territoire où ils ont grandi, parce que pour eux, la mobilité, c'est un horizon presque infranchissable. Et donc là, d'avoir cette expérience où il y a un dépaysement pendant 15 jours, ils sont dans une autre région, avec des jeunes qui viennent d'autres territoires, d'autres milieux. L'idée, c'est aussi d'élargir un peu le champ des possibles et de leur montrer qu'il y a plein de possibilités pour eux et d'avoir une vraie information sur ces possibilités.
En même temps, certes, ils s'en vont pendant 15 jours dans un autre endroit, dans un autre département, dans une autre région, mais enfin, une fois qu'ils seront rentrés chez eux, ça ne leur donne pas plus les moyens d'avoir une vraie mobilité, Gabriel Attal.
Alors,
en soi.
D'abord, ça, encore une fois, moi je pense qu'il y a un impact psychologique qui est très fort. Mmh. On fait beaucoup pour la mobilité des jeunes. Un exemple, on vient d'annoncer des mesures pour faire baisser le coût du permis de conduire de 30%. Le code de la route sera pris en charge gratuitement pour tous les jeunes dans le cadre du service national universel.
Donc ils passent le code à la fin du service national universel ou pas ?
Il n'y a pas le temps de le faire en deux semaines. Donc on leur fait un premier module de formation. Ils rentrent chez eux, ils ont un accès gratuitement à une plateforme pour s'entraîner et ils ont le premier passage du code près de chez eux gratuitement. Donc c'est quand même déjà un gain de pouvoir d'achat. Donc il y a tous les enjeux de mobilité pratique sur lesquels on travaille. Et il y en a d'autres sur les transports en commun, ça fait l'objet de nos travaux. Mais il y a aussi un frein qui est psychologique. Il y a beaucoup de jeunes qui ne se projettent pas. Et le fait d'avoir eu cette expérience, c'est tout le pari aussi du service national, ça aura probablement un impact.
Marie Trélucan, en quoi est-ce que le SNU vous permettra de toucher un autre public qui est le vôtre? Aujourd'hui, si vous essayez de faire un profil des gamins qui vont au service civique, ça ressemblerait à quoi? Et donc en quoi peut-être vous pouvez toucher une autre forme de population, ou pas d'ailleurs, grâce au service national universel?
Elle ne va pas faire une gribasse du coup, elle dit ou pas.
Oui, c'est ça, exactement.
Parce qu'à vrai dire, la population des jeunes en service civique est assez à l'image des jeunes de France, à vrai dire. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas l'information.
C'est ça que je veux dire.
Très diversifiée. Ah, okay. Unicité, rien qu'unicité, on doit avoir 38% de jeunes qui sont justement, qui n'ont pas le bac, on a pas mal de décrocheurs. Donc après, c'est la question de la masse, c'est la question du nombre. y a beaucoup de jeunes, même si le service civique à date sur les 140 000 est un peu à l'image de la société, donc dans sa diversité et sociale et éducative et de genre, etc., il y a encore beaucoup, beaucoup de jeunes qui ne sont pas informés. Donc c'est vrai que d'aucuns diront, l'école avait qu'à le faire, pourrait le faire, c'est vrai, c'est pas à moi d'évaluer, est-ce que ça vaut l'argent? Je vois beaucoup de, d'informations sur les sociaux, est-ce que ça vaut l'argent? Est-ce que c'est pas l'école qui pourrait faire ça? Est-ce que si?
Bah, du coup,
ça, à la limite, c'est un autre sujet.
Ouais, alors, je suis d'accord pour dire que c'est un autre sujet, en même temps, est-ce qu'on vous écoute différemment quand vous venez dans une école ou quand vous venez dans un endroit comme celui-là?
Je pense à des gamins. Pas dans l'école. Là, le problème, c'est que de toute manière, on n'était pas invité à l'école. Je crois que l'école, on lui demande déjà beaucoup, beaucoup de choses et qu'il y a un moment, on peut peut-être pas tout demander à l'école non plus. Et qu'effectivement, le fait est que dans la loi, il était prévu qu'il y ait une information donnée aux jeunes dès 16 ans à l'école sur le service civique. C'est la possibilité de s'y engager d'ailleurs dès 16 ans. Ça marche très bien avec des décrocheurs. Le service civique, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une moyenne de 8 mois. Donc ça n'a rien à voir. C'est vraiment une année scolaire donnée à la société sur des missions d'intérêt général au cours de laquelle ils reçoivent une indemnité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent aussi parce que c'est un peu gagnant-gagnant. Mmh. Ouais. Je donne du temps à la société, mais je gagne en échange une indemnité de l'ordre de 580 € et je gagne une expérience que derrière je peux valoriser dans mon parcours.
580 € c'est par mois ou c'est pour les 8 mois?
C'est par mois.
C'est par mois,
bien sûr.
D'accord. Okay. C'est le prix d'un stage, en gros.
C'est
grosso modo, dans
la moitié du SMIC, ouais, en gros. Donc c'est vrai que ça leur donne une expérience, une indemnité, plus une expérience qu'ils peuvent valoriser derrière. Et pour les jeunes décrocheurs, il y a eu pas mal d'expériences. C'est là où c'est intéressant à 16 ans. Parmi les propositions qui seront faites aux décrocheurs à 16 ans, dans le cadre de ces 15 jours, de leur dire il y a aussi ça. Peut-être qu'une petite parenthèse de mission d'intérêt général dans le cadre d'un service civique peut vous redonner envie, vous redonner confiance en vous. Et derrière, généralement, ils raccrochent sur tous les décrocheurs de 16-17 ans.
Mais c'est pour ça que je vous posais la question, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire aux décrocheurs dans un autre contexte, en fait, que celui de l'éducation, etc., où ils écoutent donc mieux, en fait, des choses que si c'est un prof
Je vous confirme, en fait, parce qu'on a envoyé des jeunes engagés dans le cadre du service civique témoigner, parler à ces jeunes du SNU de ce qu'ils vivaient, de pourquoi ils sont engagés. Et c'est vrai qu'ils étaient, du coup, là, réceptifs, puisqu'ils étaient à l'écoute. Ils sont là dans un temps où ils sont censés apprendre des choses nouvelles, donc ils écoutent. Et ils ne sont pas dans un cadre scolaire, donc c'est vrai que c'est un cadre qui est peut-être plus favorable.
Gabriel Attal, rapidement, avant qu'on retourne au standard.
L'idée, c'est de pratiquer. Moi, ce qui est très important, c'est que beaucoup de jeunes, parfois, ont une information sur le fait qu'on peut s'engager, mais ils ne se projettent pas forcément dans l'engagement. On est quand même un pays qui a beaucoup de mal à montrer à ces jeunes leur utilité et leur capacité, chacun à apporter quelque chose. Mmh. Et l'objectif avec ce service national et la mission d'intérêt général de 15 jours, bah c'est de leur faire ressentir ce sentiment d'utilité en allant pendant 15 jours soutenir une association sur le terrain, soutenir les autres, et que derrière, ils aient envie de faire un service civique ou de s'engager dans du bénévolat, dans une association.
Allez, on retourne au standard, retrouver Emmanuel. Bonsoir Emmanuel.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Eh bien, écoutez, voilà, moi déjà je trouve que M. Attal parle du service national alors que visiblement il le fantasme beaucoup, mais j'imagine qu'il l'a pas connu parce que le service national c'était pas du tout ce grand creuset républicain et ce grand brassage. Moi je l'ai fait, ça m'a plu et je me suis même engagé 3 ans après, donc j'ai été militaire, je peux en parler en connaissance de cause comme quelques autres. Et pour parler du SNU, je voudrais juste souligner une chose, moi j'ai une fille de 15 ans et elle n'ira pas. Et c'est ma décision. Parce que je ne veux pas que pendant 15 jours, elle aille avec je ne sais qui, faire des espèces de simulacres entre chantier de jeunesse et scoutisme amélioré. Voilà, parce qu'elle est mineure et qu'elle est sous mon autorité et qu'elle n'est pas sous l'autorité de l'État. Si elle était majeure, comme au moment du service national, c'est une autre affaire. Et c'est autre chose. Et d'ailleurs, quand on voulait devancer l'appel, quand on était mineur, au moment du service national, il y avait une obligation légale qui était celle de l'accord des parents. Voilà, là qui n'est pas demandé. Et l'autre chose que je trouve quand même plus que limite, c'est que si des enfants, pour des décisions de leurs parents, ce qui sera mon cas, de ne pas envoyer ma fille dans ces espèces de camps de vacances étatiques, ils sont ensuite condamnés à une mort sociale. C'est-à-dire que si j'ai bien lu, ils ne pourront pas passer le bac et ne pourront pas passer le permis de conduire. Okay. Alors, je pense là que les juristes vont se friser les moustaches et que M. Attal peut s'attendre à un nombre de recours et de procès assez inimaginable.
Merci Emmanuel. Vous n'êtes pas le seul à poser cette question. Nous avons ce monsieur, je crois, sur franceinter.fr. J'ai pas son prénom, je l'ai perdu. Bertrand, je crois. Militant anarchiste, je refuse que mes enfants mineurs participent au SNU. Et comment l'État peut-il m'y contraindre? Comment l'État pourrait-il les punir en les interdisant de passer le bac ou le permis de conduire? en deux temps, Gabriel Attal. Un, effectivement, il y a même une question sur l'objection de conscience. Est-ce qu'on peut... Ce sont des mineurs. Pourquoi on a l'interdiction de refuser, au fond ?
Alors d'abord, je veux revenir sur ce que le précédent auditeur disait au départ. Je pense qu'il n'a pas très bien entendu ce que je disais au début, puisque précisément, je ne présentais pas le service militaire comme un moment de creuset et de brassage absolu.
Vous avez dit le contraire.
J'ai plutôt dit l'inverse, donc je préfère quand même le redire, éventuellement si des auditeurs ont rejoint en cours de route. Ensuite, sur les questions qui ont été posées. Moi d'abord, je m'étonne que, je peux l'entendre, mais je m'étonne qu'on ait des jugements définitifs sur un projet qui est en phase pilote, c'est-à-dire c'est un prototype, précisément parce que on veut tester un certain nombre de choses, regarder si tout est équilibré, si les objectifs sont atteints avant de le généraliser. Ensuite, parce que on est au bout de deux jours, c'est-à-dire que ça vient de commencer. Alors, je comprends que certains ont vu des images, mais je veux dire, ce qui sera le plus éclairant, c'est quand même le témoignage des jeunes qui seront passés par cette phase pilote, qui en sortiront et qui diront si pour eux ça a été une punition ou s'ils ont le sentiment d'avoir découvert des choses, d'avoir appris.
Il y a des gamins qui peuvent être réfractaires à ce genre de choses. On peut comprendre qu'il y a des gamins qui peuvent être réfractaires à ce genre de trucs, qui n'ont pas envie de dormir en dortoir avec d'autres, qui n'ont pas envie de ce genre d'exercice. On peut imaginer que c'est pas si simple pour ce qu'on a vu à la télé, honnêtement, ces derniers jours, objectivement, étaient très contents d'y être. On est dans la phase pilote. Il y en avait plein qui voulaient être pompiers, gendarmes, etc. Donc, ils sont totalement dans le mood à ce moment-là. On peut imaginer que sur combien vous avez dit? 8 millions de quel était le chiffre exactement?
800 000 par, il y a 800 000 jeunes par
800 000
génération.
Jeunes, mais de gamins entre 10 et,
sur 10, et, bah, et, sur 10 tranches d'âge, ça voilà. Fait 800 000 fois 8.
Voilà, 800 000 fois 8. Donc, 8 millions. On peut imaginer que parmi ce chiffre-là, il y en a certains qui ne soient pas tout à fait heureux d'y aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Écoutez, moi, mon pari, c'est que ils auront envie d'y aller parce que, encore une fois, les jeunes qui seront passés par cette phase pilote le diront. J'entends ce que vous dites sur le fait que c'est des volontaires et que certains veulent être pompiers ou militaires. C'est pas le cas de tous les jeunes. Et précisément, moi, mais tous les jeunes dans cette phase pilote. Ce que je dis depuis le début, c'est que on est allé chercher des volontaires. Si on avait mis en place le dispositif en disant c'est sur la base du volontariat, informez-vous et débrouillez-vous, effectivement, on n'aurait eu que des jeunes assez semblables qui auraient eu envie de le faire, qui auraient été très motivés.
Est-ce qu'on peut imposer,
on est allé chercher des décrocheurs
est-ce qu'on peut
avec
réellement imposer après
aujourd'hui, vous avez une obligation scolaire pour des mineurs. Donc, moi, j'entends bien les discours qui
non,
ont
non,
été.
Non, une obligation d'enseignement.
Oui, mais enfin, vous,
pareil,
d'instruction. Mais moi, j'entends bien ce qui a été dit sur on peut pas faire d'obligation pour des mineurs. Aujourd'hui, ça existe. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On est sur une phase pilote.
Mais du coup, est-ce qu'il faut mettre la sanction avant les bœufs, en disant attention, parce que non, mais on est d'accord, on est dans le pilote. Mais est-ce qu'il faut annoncer attention, ceux qui n'iront pas pourront être privés de permis de conduire ou de baccalauréat? Est-ce que c'est pas un peu raide quand même, honnêtement?
Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'annonce sur ce sujet, puisque précisément, on est dans une phase pilote, on teste notre dispositif.
Donc pour l'instant, vous dites non, ça n'est parce que vous pouvez dire non, il n'y aura pas de sanction si les gamins veulent pas y aller.
Je ne dis pas ça. Je dis que l'engagement du président de la République pendant la campagne, qui a été rappelé allègrement récemment, c'est un service universel, obligatoire pour tous les jeunes. Et donc c'est sur cet engagement-là que nous travaillons et que nous allons avancer. Mais ces questions-là, elles se posent sur le moment de la généralisation qui interviendra pas demain, même pas l'année prochaine, et sur laquelle on va travailler. Il y aura un débat législatif sur le sujet.
Je suis en train de me faire engueuler, donc je vais le dire publiquement. Arrête de dire gamin pour parler des jeunes. On a des mails de gens énervés, me dit Marie-Claude Poinçon de l'autre côté de la vitre. Donc très bien, je vais dire jeune à la place pour ces jeunes gens de 16 ans. Je voudrais qu'on écoute Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Je vais faire comme Charline Van Hennecker, je vais dire bonsoir à la France Inter. moi je regrette d'une certaine façon qu'une fois de plus on invente un dispositif style usine à gaz, complexe, coûteux, alors qu'on avait un dispositif, je dirais, fantastique, qui s'appelait la coopération, qui a été supprimé il y a maintenant certainement une vingtaine ou une trentaine d'années, qui consistait pour des jeunes Français d'aller donner un coup de main dans les pays qui en ont besoin, en particulier en termes de formation. On enseignait essentiellement le français, on enseignait des mathématiques. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'aller en Égypte. Les pays qui nous accueillaient étaient vraiment très, très contents de nous avoir parce qu'ils n'avaient pas toujours les moyens de rémunérer des enseignants. Et quant à nous, c'était une aventure extraordinaire. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de choses qui me sont utiles que j'ai appris là-bas au contact des Égyptiens et de tous les gens de la région. Dernier point, nous ne coûtions absolument pas cher. Nous étions payés grosso modo un SMIC qui nous permettait de vivre tout à fait décemment sur place, et beaucoup moins cher évidemment que des enseignants expatriés dont on connaît les indemnités et le reste.
Voilà, donc, ce qui voilà. C'était un autre sujet, Jean-Jacques, très honnêtement, enfin, voilà, on n'est pas là pour. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, Marie Trélecan, je voyais que vous vouliez intervenir.
Oui, ben, je voulais réagir parce qu'en fait, la coopération a été suspendue avec la suspension du service national, puisque le service qui était militaire au départ, je vais pas refaire l'histoire, je ne suis pas une historienne du service national, mais j'ai quand même un peu suivi le sujet, est devenu national au bout d'un moment, c'est-à-dire avec des formes civiles possibles. Et dans les formes civiles possibles, il y avait la coopération à l'international, comme il y avait ce qui s'appelait le service ville à l'époque, où les jeunes donnaient leurs 12 mois ici, dans des associations, des services publics. Et ce qui a été supprimé, effectivement, c'est l'obligation, mais il y a maintenant des volontariats qui remplacent la coopération, par exemple, a été remplacée par le volontariat international en administration ou en entreprise, le service ville de l'époque, donc je m'engage dans mon pays ici, dans le sur le territoire, a été remplacé par le service civique qui est effectivement est exactement le service national de l'époque, sauf qu'il n'est pas obligatoire. Après, c'est un choix que on peut comprendre et budgétairement et philosophiquement du gouvernement de dire je ne veux pas rendre ces 12 mois ou ces 8 mois de service civique en France ou à l'étranger ou devant obligatoire, parce que ça perdrait son sens, on n'a pas l'argent et on n'a pas envie d'imposer ça aux jeunes. Donc là, c'est un choix un peu de dire, il y a un socle obligatoire à voir s'il est légitime ou pas, si le contenu de ce socle. Mais derrière, là, c'est quand même mon point, c'est que je pense que ce qui fait que tous ces gens ont été marqués, c'est ce que je vois avec quasiment 25 000 jeunes qu'on a accompagnés nous-mêmes, le service civique a dû en mobiliser 70 000 depuis le début, c'est que de rendre vraiment, d'avoir une expérience un peu longue, un peu lourde de 8 mois comme ça où on remplit vraiment une mission, on se sent vraiment utile et on gagne une expérience qui est gagnant-gagnante, qui était aussi ça qu'on avait dans le service national. Les gens à la sortie, ils avaient quand même 12 mois d'expérience, le permis, machin. Donc c'est vrai que ça ne suffira pas et c'est là où le fait d'avoir dit le service national universel, nouvelle version, c'est pas que les 1 mois ou les 15 jours, c'est derrière un temps de service. Parce que je lis aussi des remarques sur les réseaux sociaux ou dans les articles sur le service national. Là, les jeunes, pendant 1 mois, ils vont pas rendre service. C'est plutôt un temps de formation. C'est vrai, honnêtement. Le vrai temps de service, c'est la phase 3. Enfin, ce qu'ils appellent la phase d'engagement. C'est le temps où on va rendre service au pays. Ça, c'est le temps du service civique pour ce qui est de la France, du volontariat international pour ce qui est de l'international.
C'est une manière très... service militaire en fait autrefois de raisonner en fait, j'imagine qu'ont les gens, et c'est bien normal parce que c'est leur référence. Moi, ce que je retiens dans ce que vous dites, Marie Trélecan, c'est qu'il y a plein d'ouvertures aussi, il y a plein de moyens en fait. Vous parlez de ce qui a remplacé la coopération, du service civique que vous connaissez encore mieux. Il y a 1000 moyens en fait vraisemblablement d'aller rendre service.
Il y en a pas 1000 si veut, enfin il y en a un certain nombre qui marchent bien et qui sont pas assez développés. Donc ça, c'est mon interpellation, Gabriel Attal, c'est exactement ce que j'en pense, c'est que le vrai sujet, c'est que si on investit dans les classes, il faut investir dans le service. Et donc, s'il n'y a pas les moyens de développer le service civique, développer les formes de volontariat pour que celles-là deviennent universelles et que finalement, dans le parcours des jeunes, dans tous les jeunes, sans le rendre obligatoire,
il soit naturel en fait d'aller derrière.
Avoir vécu un service civique, qui un service civique, qui un volontaire international. Si on se donne pas cette ambition là politiquement, pourquoi faire les classes? Donc ça, c'est ma seule réserve, c'est que on peut pas sacrifier le service pour les classes. Voilà, c'est juste ça.
Et Gabriel Attal, comment on fait donc pour que effectivement tout ça soit une suite naturelle en fait, tout simplement?
D'abord, on fait en sorte que dans ce premier mois obligatoire, il y ait une vraie découverte de l'engagement. L'objectif, c'est que les jeunes ressortent de cette première phase obligatoire de cohésion, d'abord en ayant découvert des choses, en ayant eu cette expérience de mobilité, mais aussi en ayant développé cette envie de s'engager. Moi, ma conviction, c'est que tous les jeunes sont prêts à s'engager. On a vu ces derniers mois que sur la question du climat, notamment, ils étaient très mobilisés, très intéressés. L'enjeu, c'est de leur permettre de se projeter dans l'engagement. Parce que beaucoup de jeunes, d'abord, ne savent pas forcément comment s'engager, et parfois se disent « moi, j'ai rien à apporter ». Et donc, dans ce mois, il y a quand même 2 semaines de mission d'intérêt général où ils seront dans une association, auprès d'une collectivité locale ou autre, et où ils vont pouvoir découvrir ce que c'est. Et évidemment, ensuite, l'objectif, c'est que la suite naturelle, ce soit un engagement de plus longue durée. Ça peut être un service civique, ça peut être du bénévolat dans une association, ça peut être le corps européen de solidarité, ça peut être les pompiers volontaires, ça peut être la réserve de nos armées. Il y a plein d'engagements possibles, c'est vrai. Et l'objectif, c'est de leur donner à voir tous ces engagements possibles pour qu'ils puissent s'engager derrière.
Bonsoir Claude.
Oui, bonsoir.
Allez-y Claude, on vous écoute.
Voilà. Eh ben, en 1967, j'avais 19 ans. Et puis, donc, je devais avoir 20 ans, mais en mai 68. Sauf que j'étais, à l'époque, je faisais partie de ceux qui disaient, je voulais tous les métiers, je voulais rien faire, je voulais pas étudier, je voulais pas, bon. Mon père a dit, bon, ben, puisque c'est ça, tu pars à l'armée, infanterie pendant 3 ans. Et puis, à la sortie des 3 ans d'armée, où j'avais lu, hein, j'avais rattrapé mon handicap culturel, je commençais à savoir ce que je voulais, j'ai fait des études de lettres à Toulouse, et puis au bout de 3 ans, licence, CAPES et maîtrise, et puis j'ai fait une carrière de prof de lettres, voilà.
Eh ben, écoutez, formidable. Merci beaucoup pour votre témoignage, Claude. Moi, je trouve ça formidable à chaque fois, plutôt intéressant en fait, qu'on fait des sujets autour du service qu'on avait déjà fait l'année dernière quand on se posait la question de savoir s'il fallait revenir à un service militaire ou autre chose. On a toujours des gens pour venir nous raconter leur propre service et leur expérience de service. J'en ai un sous les yeux là qui dit que le service national m'a permis de me former, service militaire à Tahiti, puis 5 ans, etc. Un cap qui m'a beaucoup aidé. Depuis, ce monsieur est directeur de supermarché. Il y a, Gabriel Attal, il y a une espèce de... Ce sont de vieux témoignages, sans vouloir être méchant avec ses auditeurs, donc des choses qui ont 30, 40 ans, 50 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de fantasme, en fait, de cette espèce de moment de regroupement comme ça, écueil dans lequel il ne faudra pas tomber non plus ces fameux jours, en fait, dans ces fameux 15 jours de service national universel?
Bien sûr, on en revient à ce qu'on disait au début de cette émission. Il y a une part de fantasme, mais il y a aussi une part de constat. Je ne vais pas revenir sur les débats qu'il y a eu ces derniers mois, sur le livre de Jérôme Fourquet, sur l'archipel, sur le fait qu'on a des fractures aujourd'hui dans la société, et y compris chez les jeunes. Et que l'objectif, c'est quand même de remédier à ça. Alors peut-être que ça ne réglera pas tous les problèmes, évidemment, mais si ça y participe, si ça permet à des jeunes de trouver leur voie, si ça permet à des jeunes de s'engager, de découvrir qu'on s'accomplit aussi en s'engageant, on s'insère, on fait des découvertes sur soi, sur son orientation, bah, objectivement, ça sera un plus énorme. Et ça permettra peut-être de travailler à une société plus rassemblés, où on fait nation davantage, où on se parle davantage et on est davantage en commun.
Marie-Trélucane.
J'allais dire que des témoignages comme celui de monsieur, il y en a de la part de jeunes, évidemment, plus sur le service civique que sur la partie cadre courte. Mais il y a ce genre de témoignages de jeunes qui ont vécu moins de service civique et qui disent que ça leur a changé la vie, que ça leur a permis d'avoir un projet, d'avoir enfin une orientation. Derrière, 70 à 80% trouvent un job ou repartent en formation qualifiante. Donc il y a ce même genre de témoignages sur le service civique qu'on a aujourd'hui.
Je suis plutôt pour, nous dit cette internaute sur franceinter.fr, mais je voudrais bien être sûre que l'encadrement et la surveillance de ces jeunes mineurs sont faits sérieusement et correctement. Qui précisément seront les encadrants et comment sont-ils recrutés?
Alors c'est une question qui est essentielle et qui est tout à fait légitime. On a un très haut niveau de recrutement pour les encadrants des jeunes. Tous les encadrants sont des personnes qui ont une expérience et une qualification d'encadrement de la jeunesse.
Il y a trois niveaux. C'est niveau BAFA, c'est ça?
Il y a trois niveaux d'encadrement. Il y a le niveau le plus rapproché des jeunes, qui est le tuteur, où là, c'est BAFA, BAFD, BPJEPS, des animateurs, des éducateurs, plutôt de l'associatif et des mouvements d'éducation populaire. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'encadrement, qui est celui de la compagnie, où là, vous avez des personnes qui viennent des armées, du monde militaire. Vous avez des personnes qui viennent de l'éducation populaire, qui ont une expérience, une qualification un peu supérieure, ou des personnes qui viennent de l'éducation nationale. Et puis après, vous avez les chefs de centre et leurs adjoints, où là, c'est des personnes encore plus expérimentées. Pour tous, il y a les mêmes contrôles que pour tout encadrement de jeunes, contrôle d'honorabilité, comme on dit, casier judiciaire, tout est vérifié. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un très haut niveau d'encadrement. Sur cette phase pilote, par exemple, on a un encadrant pour 5 jeunes. C'est très élevé quand vous regardez les normes aujourd'hui pour les accueils collectifs de mineurs pour des jeunes qui ont 15-16 ans. C'est plutôt 1 pour 12. Là, on est sur 1 pour 5. Donc, c'est très sécurisé comme environnement.
Pierrick, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Pierrick.
Alors, moi, ma réflexion, en fait, parce que je suis pas forcément pour le service national, mais ma réflexion, c'était de savoir si on arrêtait de déshabiller, en fait, l'éducation nationale. Est-ce que c'est, que ce soit l'écologie ou la tolérance des cultures, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait apprendre aux enfants? Est-ce que c'est pas quelque chose qui rentrerait mieux en fait dans la tête des enfants si c'était inculqué dès l'âge de 6 ou 7 ans plutôt que si on leur faisait faire un service à l'âge de 16 ans en fait où l'éducation est déjà faite, en fait.
Merci beaucoup, Pierrick. Il y a beaucoup de questions dans ce sens, Gabriel Attal, et c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Au fond, on regarde, on se dit, c'est le rôle de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut répondre, ben non, pas forcément, ou si?
On répond que l'éducation nationale, elle a un rôle central, majeur, qui est celui d'éduquer les enfants, de leur apprendre, de leur transmettre des savoirs, y compris sur les enjeux qui viennent d'être évoqués, hein, d'écologie. On travaille beaucoup avec Jean-Michel Blanquer sur ce sujet-là pour renforcer ces enjeux d'écologie à l'école, mais que l'école ne peut pas tout faire et qu'il y a des expériences qu'on peut découvrir, des expériences qu'on peut développer en dehors de l'école et peut-être même qu'on ne peut découvrir qu'en dehors de l'école. Quand on parlait tout à l'heure de pratique et de ce qu'on appelle la pédagogie active, j'en ai pas parlé encore. L'objectif avec ce service national, c'est que sur tous les enjeux, y compris sur les valeurs de la République, la citoyenneté, qui peuvent apparaître comme parfois un peu théoriques, ça ne passe que par de la pédagogie active. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des mouvements d'éducation populaire qui ont développé des manières innovantes d'enseigner ça. Ça va être de la simulation, du jeu de rôle, du débat. Tous les soirs, dans les centres du SNU, vous avez un débat de société où les jeunes débattent à partir d'un support. Par exemple, il y a un documentaire là qui va être diffusé dans les centres sur Footballeur et Homo, qui est un documentaire qui a été diffusé récemment sur les questions d'égalité et de non-discrimination en fonction de l'orientation sexuelle. Lundi, il y avait la diffusion du match France-Nigeria dans tous les centres. Et autour du match féminin France-Nigeria, il y a eu un débat sur l'égalité femmes-hommes dans le sport et dans la société. Donc voilà, il y a cette capacité aussi à appréhender des sujets de société dans un cadre qui n'est pas scolaire, et parfois on sait que les jeunes peuvent avoir besoin aussi de sortir de l'école pour aborder des questions. Ce qui ne veut pas dire qu'on déshabille l'école,
c'est un autre rôle. C'est ce qu'on disait Marie Trélecan tout à l'heure, il y a des choses qu'on peut entendre dans un autre cadre que l'école et qui peut-être est mieux entendue en fait, c'est peut-être ce qui emmène des jeunes vers chez vous d'ailleurs.
Mais je pense que votre auditeur interpelle Gabriel Attal et le gouvernement globalement sur la cohérence de l'ensemble et que tout est une question d'équilibre, donc je pense qu'on est tous vigilants à ce qu'on donne les moyens à notre école pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs qui sont quand même ambitieux. Nous, moi, de l'autre côté, je dis attention, il faut quand même donner les moyens à un dispositif qui a fait ses preuves, le service civique, de se développer. Donc, tout est une question d'équilibre et de cohérence de l'ensemble. Et je pense que c'est important de le dire. Et Gabriel Attal, on lui a suffisamment dit, je pense, pour qu'il en soit conscient.
On aura l'occasion de lui redire après, ça se passe dès la fin du premier module. Et ensuite, mais Marie Trélecan, c'est pour vous, cette prochaine auditrice, elle s'appelle Camille. Écoutez-la. Bonsoir, Camille.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, moi justement, j'ai fait un service civique avec Unicité. C'était en 2013, c'était à Marseille pour la capitale européenne de la culture. Donc moi, je viens d'un milieu assez aisé, j'ai fait un master en communication et j'hésitais tout de suite à me lancer sur le marché du travail. Et l'expérience du service civique, ça m'a énormément aidée, notamment du point de vue de la mixité sociale. Parce que ça m'a permis d'évoluer avec des jeunes qui venaient pas du tout du même milieu. Donc forcément, il y a tous les clichés, les stéréotypes et tout ça. De mon point de vue, comme du leur, eux, ils m'appelaient l'intello, la master, alors que pour moi, dans mon milieu, c'était normal d'avoir un bac plus 5. Et eux, ça leur a permis à certains jeunes avec qui j'étais en équipe de se dire que c'est accessible et que j'étais pas forcément plus intelligente qu'eux. Et puis moi, ça m'a montré que tout le monde a la chance de réussir dans la vie, et quel que soit son milieu. Ça m'a énormément apporté.
Et du coup, Camille, qu'est-ce que vous en avez fait après, en fait, de tout ça? Une fois que vous revenez dans la vie civile, j'allais dire, ce qui n'est pas le bon terme.
Déjà, j'ai changé de région, parce que je venais de Lille à l'origine, et mon service civique, ça s'est passé à Marseille, donc j'ai découvert cette région PACA, qui m'a beaucoup plu, et maintenant je vis à Gap, dans les Hautes-Alpes. Et également en termes de mon métier, parce que j'étais un peu perdue, je savais pas dans quel milieu m'engager. J'ai décidé de m'engager dans un milieu militant. Donc maintenant, je travaille en communication, mais dans un magasin coopératif bio.
Eh ben voilà, Camille, Marie Trélecan, parfait, non? C'est l'appartement témoin, Camille, l'appartement témoin du service civique.
C'est les volontaires, les meilleurs ambassadeurs de ce que c'est. Camille a très bien dit ce pourquoi je me bats depuis 20 ans pour que tous les jeunes puissent faire un service civique un peu long. Alors c'est vrai qu'on a toujours eu des débats en disant l'un n'est pas exclusif de l'autre, et c'est en tout cas mon espoir que ce sera pas exclusif de l'autre, et que investir dans un temps de formation, de ce temps court de formation, de tests, etc., de rassemblement, ça sera pas au détriment de ce qui fait changement dans les personnes, puisque c'est vrai que s'il y a un impact durable comme ça et une remise en question, et c'est parce qu'ils ont passé 8 mois ensemble et que forcément, ça change une vie.
Est-ce que c'est des Camilles qui viennent éventuellement parler aux jeunes du service national universel, par exemple? Parce que c'est des profils comme ça que vous comptez envoyer parler.
J'envoie des jeunes décrocheurs comme des masters et des jeunes de quartiers populaires comme des jeunes de milieux plus aisés, puisqu'ils parlent à la diversité de la jeunesse. Donc évidemment que c'est eux qui vont témoigner et leur suggérer de derrière s'engager un peu plus longuement.
Gabriel Attal, il nous reste 8 secondes. J'ai gardé cette question pour la fin. Elle est pour vous. Est-ce bien nécessaire de réveiller les jeunes si tôt? On sait bien que les jeunes de 16 ans ont besoin de dormir plus longtemps. Un réveil à 8 heures laisserait au moins le temps de faire des choses et les jeunes seraient bien plus en forme.
Bah écoutez, ça fait partie de la phase pilote. On va regarder si effectivement ça a un impact, si ça fatigue trop les jeunes. Voilà, tout ça, c'est encore une fois pour ça qu'on fait une phase pilote. On est pragmatique. On ne se lance pas dans un projet qui va concerner 800 000 jeunes à terme. D'un coup, comme ça, on teste notre organisation et ça sera évalué à l'issue de la phase pilote. On n'en a pas parlé, mais il y a de vrais critères d'évaluation. Il y a des chercheurs, des sociologues dans les centres pour vérifier ce qu'on fait et on prendra tous les enseignants.
Voilà. Ça ne se passera pas forcément à la dure, donc pour tout le monde. Merci beaucoup, merci à tous, merci pour vos nombreux appels comme tous les soirs et portez-vous bien.